Je m'appelle Didier. Mon épouse est décédée de maladie. J'ai toujours été convaincu que le temps ne suffirait pas à apaiser ma tristesse. J'ai cherché des ressources autour de moi pour traverser cette période. J'habite au Pays Basque. J'ai trouvé des appuis qui me permettent d'être là aujourd'hui, de parler devant ce micro pour partager mon expérience et vous encourager, pour vous aider à faire les premiers pas, difficiles, sur ce nouveau chemin que vous comme moi, vous n'avez pas choisi, mais aussi pour remettre en question des idées reçues et des tabous, pour vous faire rencontrer des personnes inspirantes qui peuvent être là pour vous aussi comme elles l'ont été pour moi. La perte et le deuil sont dans notre vie, inutile de se le cacher, on va en parler au contraire. Le deuil autrement, c'est une autre route que nous pouvons prendre ensemble. Je n'ai aucune connaissance professionnelle ni rien à vendre dans ce domaine. Si vous avez appuyé sur play pour ce podcast, félicitations, vous avez fait un premier pas. Venez avec moi, je vous emmène. Alors dans cet épisode et ceux qui vont suivre, on a décidé de se prendre par la main. Je sais, c'est pas très facile, c'est pas toujours possible, mais là on décide d'être dans la vie telle qu'elle se présente. Quelque part, en ayant des activités, en réalisant des choses, ben on se reconstruit. Et bien sûr, le manque que l'on vit, lui, il sera toujours là. Mais ça nous permet de nous solidifier un petit peu dans cette période où évidemment on est vulnérable, où une partie de nous-mêmes a disparu avec le décès de la personne qu'on aimait. Alors ça nous permet de nous reconstruire, et ces personnes diverses et variées que je vais vous présenter les unes après les autres, ben, peuvent participer à ça. En tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et moi, ça m'a fait du bien et je voulais vous partager tout ça. Et surtout, pas de culpabilité hein, de faire des choses pour vous, car c'est la vie qui est là. Et c'est comme ça qu'on peut traverser en laissant aussi la vie nous proposer ce qui vient et finalement ce qui est bon pour nous. Laissez-vous guider à travers ces personnes, je suis sûr que vous trouverez des choses intéressantes. Et désolé pour les défauts d'enregistrement sur cet épisode, les petits bruits dans le micro et les avions qui passent. Bon, bah écoutez, aujourd'hui, nous recevons M. Hervé Beauvois, qui est psychologue pour le camp de l'hôpital de la Côte Basque à Bayonne. Donc, c'est un monsieur que j'ai côtoyé à plusieurs reprises et que je voulais vous présenter. C'est quelqu'un qui m'a aidé de façon régulière. Donc, je voulais absolument parler des rencontres avec les psychologues en général et avec ce service en particulier de l'hôpital. Donc, bonjour, monsieur. Bonjour, Hervé. On peut dire.
Très bien, oui. Bonjour.
Je passe un peu de l'autre côté. Moi, c'est vrai que je me souviens, puisque mon épouse était suivie ici à l'hôpital au service d'oncologie, à un moment on s'est croisés et elle était pendant les soins et je crois que j'ai fait un premier rendez-vous avec vous au début de ce long processus et puis ponctuellement, on s'est rencontrés, vous m'avez ouvert votre porte à chaque fois, de façon très simple. Nos rendez-vous se sont multipliés, évidemment, après son décès, puisque moi, j'étais dans une période vraiment trouble et j'étais paumé, hein, très clairement. Dans les services que propose l'hôpital, il y a effectivement, en lien avec les soins palliatifs et l'oncologie, une équipe de psychologues qui interviennent auprès des patients, mais aussi auprès des familles des patients, c'est comme ça que je suis arrivé là, des conjoints, des enfants, etc. Et je crois que vous intervenez en fait auprès de tous ceux qui en ont besoin et qui en font la demande. Combien vous êtes dans le service? Comment ça se passe, très simplement?
En fait, il y a deux dispositifs. Il y a un dispositif réglementaire qui est issu du plan cancer, du dispositif d'annonce en cancérologie exactement, qui prévoit que dans les établissements où on traite des cancers, les patients et les proches peuvent accéder à des psychologues. Ça, d'accord. C'est national, c'est réglementaire. Et il y a ici à l'hôpital de Bayonne une équipe de 3 psychologues qui rencontrent quotidiennement les patients et les proches. C'est à ce titre-là que je vous avais rencontré à l'époque.
Oui.
Ça, c'est l'équipe transversale de psychologues en cancérologie, elle s'appelle, et elle intervient transversale, ça veut dire dans tous les services de l'hôpital où des patients sont soignés pour des cancers. Et à côté de cette équipe-là, il y a une équipe mobile de soins palliatifs qui, elle, s'adresse pareillement aux patients et aux proches, mais pas exclusivement sur des maladies cancéreuses, et plutôt pour des situations palliatives, donc des personnes qui ne vont pas guérir de leur maladie, qu'elles soient en fin de vie ou pas, peu importe, mais qui ne vont pas guérir leur maladie. C'est ce qui définit le caractère palliatif. Et cette équipe peut éventuellement intervenir au domicile. Voilà,
D'accord.
elle est mobile. Et c'est aujourd'hui dans cette équipe que je travaille à temps plein.
Et pas uniquement auprès des soignés, mais aussi...
Des proches, oui, des
Ouais.
familles, oui, tout à fait.
C'est ça qui est important de dire aussi. Donc, dans cet épisode, on va essayer de répondre à cette question. Un psy, pourquoi faire? C'est le titre de l'épisode. C'est-à-dire, bah, est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un? Est-ce qu'il faut que je sois accompagné? Pourquoi je vais déclencher un rendez-vous? On sait bien que c'est difficile parfois aussi de faire un premier pas. Est-ce que j'ai des signes qui peuvent m'alerter en disant, bah, écoute, là, il faut que tu vois quelqu'un. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces rendez-vous? C'est un peu l'objet de cet épisode. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comme d'habitude, je vous pose les trois mêmes questions que je pose à tous mes invités. Donc d'abord, qu'est-ce que vous avez pensé quand je vous ai proposé de participer à ce podcast?
Moi, j'ai trouvé la démarche intéressante, quoi. À la fois parce que pour vous, c'est-à-dire pour l'expérience que vous avez vécue et dont j'ai été un peu témoin ou à laquelle j'ai été associé par période, donc pour l'intérêt que ça a dans le cheminement qui, depuis des années, vous a conduit à aujourd'hui. Et ce cheminement, je trouvais ça intéressant que vous souhaitiez le partager. Donc c'était plutôt incitatif pour moi de contribuer aussi, de répondre positivement à votre demande. Et puis, il y avait aussi une autre motivation, c'est que je trouve toujours intéressant de faire connaître. Votre intention était de faire connaître, à travers votre expérience personnelle, mais de faire connaître les ressources existantes dans un territoire donné, et puis que chacun puisse après librement solliciter telle ou telle ressource selon sa situation. Donc c'est deux bonnes motivations
Ouais.
qui m'ont incité à répondre positivement à cette demande.
D'accord. Merci. Effectivement, je trouve qu'il faut faire savoir que ce service existe et qui peut aider beaucoup de monde. Alors, deuxième question traditionnelle, donc à titre individuel, vous, et je dirais comme tout le monde, vous avez sûrement été confronté à la perte de quelqu'un de proche, de cher, en tout cas quelqu'un dont la perte a été plus sensible que d'autres personnes, peut-être. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, sans rentrer forcément dans les détails, mais dans quelles circonstances et quel lien vous aviez avec cette personne? Et sur votre propre chemin du deuil, finalement, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots là-dessus?
Alors oui, je ne vais pas raconter dans le détail ma vie qui n'intéressera pas forcément un grand monde, mais disons que effectivement, comme tout le monde, je suis confronté à titre personnel, en dehors du registre professionnel, à titre personnel à des décès autour de moi, des amis, de la famille. Il y a 650 000 décès par an à peu près, donc ça serait bien miraculeux d'échapper parmi cette foule de gens qui meurent chaque année à ce qu'on n'en ait pas quelqu'un dans nos connaissances qui disparaît. Donc, à titre personnel, j'ai été confronté dans les années précédentes à des deuils. C'est sans doute en partie ce qui m'a conduit à me former en soins palliatifs il y a une dizaine d'années pour explorer un peu plus ce monde, ce rapport un peu à la mort, ce temps de la fin de vie et les modalités avec lesquelles il pouvait se dérouler. Donc, ce que j'en tire après, c'est très variable. J'ai eu à la fois des décès attendus au terme de maladies longues, des décès brutaux comme ça, donc de gens jeunes, de gens moins jeunes. Bon, bref, une palette ordinaire de tout ce qui peut nous confronter à la mort. Moi, ce que j'en garde comme qui a pu nourrir peut-être un peu ma pratique aussi professionnelle, c'est d'avoir fait l'expérience de la confrontation à la mort qui vient. C'est-à-dire que la mort qui vient, c'est quelque chose qui, dans la vie sociale, est plutôt occulté. On n'y pense pas, on s'en occupe pas, on se détourne de ça. Quelqu'un qui parlerait de la mort, on va se dire, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Il m'intéresse pas, il est triste, il est je sais pas quoi. Donc, faire cette expérience d'un deuil, c'est se confronter, qu'on le veuille ou non, à la mort qui vient, et ça rappelle que la mort peut venir dans nos vies, et puis que de toute façon, elle viendra un jour ou l'autre. Donc je trouve que c'est une expérience assez intéressante parce qu'on la partage tous, c'est vraiment une des rares choses que toute l'humanité entière partage. Et puis ça m'a donné aussi une expérience qui m'a intéressé de la communication dans ce contexte, communication entre les soignants et les familles. Et même entre groupes de personnes, de familles et il y a quelque chose qui se passe au moment où on perçoit que la mort va venir. Et ça m'a intéressé ça sur les enjeux autour de la communication.
Mais est-ce qu'on est plus armé oui, quelque part, vous dites oui, puisque vous y êtes confronté, vous, plus régulièrement que tout un chacun. Mais quand il s'agit de sa propre personne ou de ses proches, y a quand même une bousculade un petit peu de certaines choses, ou est-ce que...
Non, je pense que ça n'impacte pas le ressenti émotionnel. C'est-à-dire
Ouais.
qu'on peut avoir intellectuellement une perception des choses, une distance qui aide à comprendre un certain nombre de choses, mais ça, c'est la
Oui.
compréhension intellectuelle.
Oui.
L'impact émotionnel, il est là, hein, on
Il
n'est
est
pas
là.
anesthésié pour autant. Donc, oui, on est pareillement pris dans un tourbillon émotionnel quand il y a, le métier de psychologue
Oui.
n'émousse pas cet aspect-là.
Ok. Merci pour ce partage de votre expérience. Voilà, encore une fois, votre expérience propre et non pas professionnelle. Est-ce qu'il y aurait un conseil à donner aux gens qui sont en deuil, une première chose qui vous viendrait?
Alors, je suis toujours réticent à donner des conseils parce que
Oui.
c'est tellement des expériences singulières liées à l'histoire de chacun,
Et
au
personnel,
contexte, à
oui.
l'environnement, etc., que un conseil, ça risquerait d'être, ça pourrait être entendu comme j'ai fait ça, faites pareil, quoi. Et c'est sûrement pas mon propos.
Oui.
Si j'avais quand même une piste, disons, pour essayer de dire un peu les choses,
Oui.
c'est que, et c'est souvent ce qui se passe quand je vois des gens qui ont vécu un deuil récent. C'est laisser venir les choses, c'est-à-dire ça provoque un sentiment parfois d'étrangeté. Les gens ont l'impression de devenir fous, de perdre leurs repères, d'être empêchés de penser, de plus avoir les mêmes envies. Bon, et ça fait perdre pied. Donc moi, si je peux dire quelque chose, c'est peut-être de laisser venir ce tumulte, quoi, ce tourbillon qui bouscule tout, et de
D'accord.
pas forcément lutter parce que ce tourbillon, il n'a qu'un temps, il est normal, légitime, il est même nécessaire, je pense. Avant que le calme revienne et qu'un
Ouais.
nouvel équilibre se fasse, donc plutôt de laisser venir, peut-être, voilà, même si c'est douloureux ou inconfortable. Mais
Ouais.
peut-être s'accorder mutuellement, collectivement, une tolérance à cette perte de repères, voilà.
D'accord. Bah écoutez, je trouve que c'est un bon conseil. Merci Hervé. Donc peut-être pour commencer vis-à-vis de l'activité professionnelle et du service, on en a parlé tout à l'heure. Est-ce que les gens viennent vous voir comme moi, c'est-à-dire après le décès d'un proche? Est-ce que c'est courant finalement, la démarche que j'ai eue? Ou est-ce que votre travail concerne beaucoup plus les patients, les soignés?
Alors les deux en fait, hein, les deux, nous on s'était rencontrés en 2018, j'ai regardé
Ah,
la
d'accord, vous avez
première fois, hein.
regardé,
Ouais,
ouais.
j'ai regardé depuis,
Ouais, donc c'était l'année du déclenchement, oui,
ouais,
d'accord.
en fait assez tôt finalement,
Ouais.
et puis de façon ponctuelle comme ça, donc les deux, on voit à la fois des gens, des proches consécutivement à l'annonce de la maladie, quand la maladie fait irruption et porte en elle une certaine menace sur la vie, alors pas forcément d'emblée, mais parfois d'emblée, et parfois plus tard. Donc ça peut être rencontrer les proches, et ça peut être bien sûr rencontrer les patients, dans le cadre de cette annonce, quand peu à peu émerge l'idée que cette maladie pourrait emporter leur vie, quoi. Et il m'arrive de voir des proches sans jamais avoir vu le patient, il m'arrive de voir les patients sans connaître les proches, ou alors de voir tout le monde. Et
D'accord.
d'avoir même des entretiens familiaux, des fois.
Bon, dans tous les cas, c'est la personne qui doit déclencher la demande de rendez-vous.
Oui, plutôt parce que c'est difficile d'aller s'imposer comme psychologue en disant bonjour, je suis psychologue, vous êtes malade
Ouais.
ou vous êtes endeuillé, alors je pense que ça serait bien qu'on se rencontre, quoi.
Oui,
Il faut
oui,
que ce
oui.
soit vraiment une démarche volontaire,
Ouais.
parce que ça permet aussi de la faire quand c'est le moment. Il y a des gens qui viennent dans le cadre du deuil, il y a des gens qui viennent tout de suite après, il y a des gens qui viennent 3 mois après, il y a des gens qui viennent des années après, bon, quand c'est le moment. Et
Quand
ça,
c'est
moi,
le
je peux pas le
moment,
savoir, oui.
ouais. Ouais, tout à fait. Il y a un déclenchement ou pas de chacun sur ce sujet-là. Et donc, j'imagine que c'est variable puisque ces gens vont et viennent, je dirais. Vous ne mettez pas en place particulièrement de procédés, de processus, ou c'est un peu à la demande
Alors,
en fait, c'est
oui.
très personnalisé
Il n'y
comme.
a pas de parcours type.
Ouais.
En général, on vise quand même plutôt dans le suivi de deuil des prises en charge assez courtes.
C'est quoi
Et
court?
Ça peut être quelques mois, quelques mois. Si ça doit durer, on essaye plutôt d'orienter après sur d'autres psychologues extérieurs ou d'autres, oui, d'autres psychologues ou d'autres types de prise en charge. Si le deuil a révélé une fragilité ou une souffrance qui est déclenchée par le deuil, mais qui préexistait ou qui est en lien avec d'autres événements de vie qui ont été ravivés à l'occasion du deuil et qui ouvrent une nouvelle problématique et qui n'est pas forcément le lieu de traiter ici. Après, ça peut être court, c'est-à-dire, moi j'ai vu là récemment quelqu'un qui, un mois après le décès de son épouse, est venu me voir, voudrait revenir dans un mois ou deux, et puis peut-être encore une fois, puis après, dès maintenant, il prévoit que ça ne soit pas plus que ça, c'est pour baliser un petit peu ce chemin qu'il est en train de faire et pour lequel il se débrouille plutôt bien, sans psychologue, mais quand même avec
Un
un petit
appui.
contact de temps en temps.
Merci. Je voulais vraiment souligner parce que cette souplesse qu'il y a dans ce service que vous apportez, c'est-à-dire je viens, mais je viens pas, mais je viens quand j'en ai besoin, et puis ça peut s'étirer ou ça peut se raccourcir. Enfin, vraiment, c'est une offre qui est vraiment importante. Moi, je dis vraiment sincèrement, ça m'a aidé. Je savais que si je vous appelle, je sais que vous êtes là. C'est pas comme si on a rendez-vous tous les lundis, etc. C'est moi qui déclenche les choses, mais j'ai cette lumière qui est là. Je sais que je peux aller la chercher. Et donc, dans des moments où on parle beaucoup de services publics qui se dégradent, etc. Moi, vraiment, je voulais souligner cette qualité-là, et c'est vraiment remarquable. Donc voilà, je voulais le faire, et je vous remercie encore vraiment beaucoup.
En tout cas, c'est une nécessité, je trouve, moi, dans la façon qu'on a de travailler, de se rendre disponible. Les personnes qui ont accompagné des proches malades et un jour décédés, ont été soumises à beaucoup de contraintes, organisationnelles, sur le dispositif de soins, finalement. Donc, on ne va pas, nous, psychologues, encore plus les contraindre en disant c'est comme ça, alors voilà le cycle, vous vous viendrez. Non, c'est se mettre à disposition. Parfois, c'est un peu compliqué au niveau logistique, mais on se débrouille plutôt pas mal. On a une grande liberté d'organisation qui permet cette souplesse. Et ça ne marche que si on est souple. On ne peut pas être rigide dans des cas pareils.
Alors sans être très précis, mais on est là au Pays Basque, il y a 300 000 habitants, sur le BAB il y en a 150 000. Alors des décès, vous disiez, il y en a 650 000 par
À
an.
peu près, oui.
Dans le département, je crois qu'on doit être à 3 000. Au Pays Basque, on doit être à la moitié. Donc il y a 1 000, 2 000 personnes qui meurent chaque année, évidemment dans de différentes circonstances. Bref, mais c'est quoi l'ordre de grandeur des gens qui passent par votre service?
Par l'équipe mobile de soins palliatifs. Alors, on a une file active de, je dirais, 800 personnes par an à peu près, de ce
D'accord,
genre de
800
malades.
personnes,
800 personnes, ça veut dire 800 malades ou 800 proches de malades qui sont vus par l'équipe mobile de soins palliatifs. Mais c'est pas que du suivi de deuil, loin de là, hein. C'est des conseils pour des symptômes, pour gérer la douleur, pour gérer, voilà, en intra-hospitalier ou en extra. Donc c'est à peu près le volume d'activité dans cette sorte-là. L'année n'est pas finie, je ne peux pas vous dire exactement, mais là on doit être à 650 personnes à ce stade de l'année, donc à 3 trimestres faits, quoi. Donc
Bon,
oui,
c'est
on
quand
va
même
être encore plus.
considérable. Enfin, c'est des gens qui, même s'ils ne sont pas concernés par ce sujet-là, connaissent l'offre, savent ce que vous
Oui.
pouvez faire et sont potentiellement concernés.
Oui.
Dans mon cas personnel, moi, je suis venu, donc vous le disiez, 2018, c'était le déclenchement, c'était l'année de déclenchement de la maladie. J'étais à un moment où moi-même, sur le plan professionnel, j'avais des très grosses turbulences, je mets des guillemets. J'étais vraiment secoué aussi en même temps par ça. Au total, je ne sais pas, j'ai dû venir 6, 7 ou peut-être 10 fois. Voilà. Est-ce que vous suivez ça? Donc vous avez... Vous m'avez dit, j'ai regardé, vous êtes venu en 2018, donc vous suivez ça enfin, précisément.
Oui, en fait, de deux façons, c'est-à-dire que d'abord, puisqu'on est dans un établissement public et qu'on rend compte de notre activité, à la fois au sein de l'équipe mobile de soins palliatifs, mais aussi dans le cadre de l'équipe en cancérologie, là, il y a une coordination Les 3C, c'est le centre de coordination en cancérologie qui est sur le territoire et qui évalue l'activité en cancérologie pour les psychologues. Donc on trace combien de personnes vues, combien de familles, combien de patients, combien de consultations pour les familles et pour les patients. Et ça, on le chiffre. Donc à chaque fois qu'on reçoit un patient, on prend 3 minutes
D'accord,
pour
ouais.
mettre sur un tableur Excel qu'on a vu
Ouais.
cette personne-là et pour faire un total par trimestre. Et on remonte ces données à cette coordination en cancérologie. Et puis, on a un bilan d'activité interne de l'équipe mobile de soins palliatifs pour la partie qui me concerne aujourd'hui, soins palliatifs, où on trace nos activités à l'hôpital, les visites à domicile, les visites en intra ici, les consultations externes dans mon bureau, etc. Tout ça, c'est tracé
Ouais.
parce qu'on nous demande de rendre compte,
Bien
de faire un
sûr.
bilan d'activité à
Bien
chaque
sûr, mais
week-end. Donc
ouais.
ça, je le sais exactement combien j'ai vu de patients, combien de consultations,
D'accord.
etc. Et
Ok.
puis, d'une autre façon, moi, je prends des notes. Souvent, après un rendez-vous, je prends quelques notes sur ce qui s'est joué dans cet entretien
D'accord.
d'ici la prochaine fois. Donc, c'est comme
Ok.
ça que je sais qu'on s'est vu 16 fois.
Combien?
16 fois.
16 fois. Ah bah voilà, moi j'étais à 6 ou 7 fois, 10 fois, mais...
6 fois en 2018 et une fois en 2019, une fois en 2020, 3 fois en 2022, 4 fois en 2023, pas en 2024 et une fois cette année.
D'accord, c'est vrai.
Mais c'est ça, j'ai regardé dans
Oui,
mon tableau et ça va vite, quoi.
oui. Ah, c'est redoutable. D'accord, bon.
Mais on le trace pas, parce
Bien sûr.
qu'administrativement, on se doit de rendre
Oui,
compte
c'est normal.
de notre volume d'activité.
C'est normal, 16 fois. Mais vous voyez,
Mais
je
après, moi,
précise rien.
concrètement, j'ai dû regarder, parce que vous me questionnez
Oui,
là-dessus, je ne le savais pas,
oui. Oui,
je serais incapable de dire ça, parce que c'est pas crucial, quoi.
oui. Tout à fait. Bon, bah écoutez, j'apprends des choses sur mon parcours. En faisant ce podcast. En fait, les gens qui font appel à vous, finalement, une des questions, c'est, bon, est-ce que je déclenche ou pas un rendez-vous? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Qu'est-ce qu'attendent les gens? Qu'est-ce qu'ils attendent d'abord eux? Et de votre expérience, avec quoi ils ressortent? Parce qu'on peut avoir une attente, ou est-ce que c'est parce que on est paumé, on est dans le brouillard, c'est vrai qu'à un moment on se regarde vivre, on n'a plus envie de rien, etc. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est des gens au contraire, voilà, qui ont cheminé? Qu'est-ce qui viennent chercher les gens chez vous?
Alors,
Où en sont les gens?
on retrouve des traits communs. Moi, ce qui est le plus, je dirais, le plus courant d'observer chez les gens endeuillés qui viennent me voir, c'est la perte de repères, l'impression de devenir fou. Souvent, je suis amené à rassurer les gens, parce que vous vous éprouvez en ce moment, c'est vous n'êtes pas en train de devenir fou, c'est juste le tumulte émotionnel, intellectuel, physique parfois, du deuil. Voilà, vous êtes entré dans la machine à laver et à un moment ça va s'arrêter et les choses vont revenir calmes. Mais là, vous êtes pris là-dedans. Donc, c'est souvent de rassurer, de banaliser presque un peu aussi les choses, de dire ce que vous éprouvez là, d'autres l'éprouvent, c'est normal, quoi. C'est une perte de repère là-dessus. Donc, c'est souvent de les rassurer comme ça. Ah bon, je suis pas en train de perdre la tête parce que je fais plus les choses comme avant, j'oublie, ça m'intéresse plus de faire ça alors que j'étais passionné. Voilà, des choses comme ça.
Bien sûr.
Qui donne l'impression de complètement perdre pied, quoi. Donc souvent, il y a un axe comme ça. Et puis après, sur du travail peut-être un peu plus au long terme, il y a entrevoir la possibilité que vivre sans l'autre est possible. Et s'autoriser à penser que la vie peut continuer. Certes différemment, mais qu'elle peut continuer à avoir un sens. Voilà. Oui, c'est tolérer une certaine étrangeté que la personne ressent vis-à-vis d'elle-même. Face à tout ce qui survient à la suite du décès. Tolérer cette étrangeté, parce qu'en fait, on a une assez faible tolérance. Hein. On ne peut pas être triste, il ne faut pas pleurer. Les gens ne s'autorisent pas à pleurer, ne s'autorisent pas à refuser les invitations des gens qui. Enfin, il y a tout un mouvement qui fait qu'on vise de la conformité un peu. Et ce n'est pas un moment où on est prêt à être conforme. On a besoin d'intériorité, de singularité, de se mettre à l'écoute de laisser venir de le vivre, pas de l'esquiver ou de le remballer ou de le taire. Et ça, c'est ça qui est dur, c'est de le vivre. Et parfois, l'espace avec le psychologue, c'est un espace où on peut tenter au moins de dire, et si possible aussi de vivre des choses qui émergent, et de les accepter, de les laisser leur faire de la place, quoi.
C'est pour ça que c'est important. Et donc, c'est une des réponses à la question un psy, pourquoi faire? C'est que c'est une période où, effectivement, il y a les habitudes, il y a l'autocensure, il y a ce bouleversement, et en même temps, on voudrait retrouver un semblant de choses connues, quoi. Or, tout a changé tout d'un coup, enfin tout d'un coup, pas tout d'un coup, mais en tout cas, toutes les choses ont changé et il faut accepter ça. Bah, écoutez, c'est très juste. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que dans les échanges, vous apportiez une reformulation et aussi de la valeur ajoutée en prenant d'autres angles de vue, justement, sur la situation que l'on vit, nous. Et ça nous permet effectivement de sortir un peu et d'ouvrir sur une autre réalité possible.
Oui, ça fait partie sans doute de ce que cet espace d'échange permet, c'est-à-dire d'apporter un éclairage, mais c'est jamais qu'un éclairage partiel, hein. Moi, je ne connais pas toute la vie des gens, je les découvre à un moment donné de leur parcours, et puis j'ai pas une connaissance absolue de tout ce qui se passe dans leur tête, hein, donc forcément, mais c'est simplement donner un éclairage un peu extérieur. Et le fait d'être un peu extérieur à leur histoire intime, quoi, c'est aussi une ressource, parce que ça veut dire qu'à l'extérieur, il y a des choses stables. Et en n'étant pas embarqué dans la douleur de l'autre, dans sa souffrance, on peut se positionner comme une vision, une parole, une présence stable, qui
Oui.
ne sera pas affectée par la peine, la tristesse,
Oui.
les événements. Et ça peut servir parfois un tout petit peu de boussole, sans dire que j'ai une boussole que je vais guider, hein. C'est pas dans l'idée du guide, mais c'est dans l'idée de quelque chose de stable dans un moment de tumulte intense.
À fait. Oui, d'après vous, à partir de quel moment c'est préférable d'aller voir un professionnel? Première question, c'est ça, à partir de quel moment ça devient un petit peu plus nécessaire? Et puis d'un autre côté, bah, si je ne me fais pas accompagner par un psy, alors un psychothérapeute, un psychologue, est-ce qu'il y a d'autres alternatives?
Alors le moment, pour moi, il n'est pas défini par le calendrier, mais par le ressenti, le vécu vraiment de
Ouais.
chacun. Donc je dirais que c'est quand la détresse, le bon moment à mon sens, c'est quand la détresse, elle est identifiée, reconnue, et qu'elle fait émerger le désir d'en sortir. C'est-à-dire qu'il y a la détresse au début dans un deuil, elle peut être niée, elle peut être masquée par d'autres choses
Ouais.
pour pas souffrir. Soit être suractif dans des choses ou sombrer dans l'alcool ou je sais pas quoi, enfin avoir
Ouais,
un
ouais,
comportement qui
ouais.
fait qu'on échappe à la détresse, à
Ouais.
la souffrance ressentie.
On masque.
Oui. Donc je pense que pour avoir cette démarche d'aller voir quelqu'un, il est nécessaire de l'accueillir un petit peu cette détresse, de dire elle est là, et comment je vais faire avec? Ben, je sais pas trop comment m'y prendre. Et si je demandais à quelqu'un de m'accompagner pour trouver un chemin? Pour moi, c'est un peu une métaphore que je fais, un peu comme une
Ouais,
randonnée, quoi. On est un peu
ouais.
perdu, on s'est perdu, bah, on demande de l'aide, ou on est en détresse pendant une rando, bah, on envoie le message pour dire là, venez m'aider, là, je trouve pas la sortie, quoi. Donc, s'il y a un petit peu ce côté-là, mais il faut d'abord reconnaître cette détresse,
Et oui.
l'accepter, et avoir le désir de trouver une issue. Alors, après, les issues, ça peut être un professionnel, un psychologue, il y a donc des dispositifs comme ici de
Ouais.
suivi de deuil, il y a aussi des associations, des dispositifs comme ça, spécifiques sur le deuil, mais à mon sens, ça peut être toute ressource qui favorise ce parcours, ce côté, comme je décrivais tout à l'heure, avoir envie de sortir de cette détresse, envisager, s'autoriser à envisager une autre vie différente en l'absence de l'autre, et tout ce qui permettrait, toute ressource qui permettrait de se mettre en route là-dessus est bonne à prendre, et vraiment, je n'imagine pas que les psychologues soient l'exclusivité de cette.
Ça pourrait être quoi?
Oh, ça peut être il y a des gens qui se lancent dans des activités, qui ont besoin de liens sociaux, qui se tournent vers du lien social. Ça peut être des activités physiques, des compétences à développer en disant bah, maintenant j'ai envie de faire ça, c'est apparu depuis le décès, j'ai envie de
Ouais.
une activité précise, associative ou autre, ou des choses manuelles.
Manuel, oui.
Ça peut être un chemin plus spirituel, s'orienter vers des parcours, oui, un peu spirituels, d'ouverture à la spiritualité, de recherche comme ça sur le sens de la vie, ça peut être de la sublimation dans des activités un peu culturelles, des activités créatrices. Il y a mille,
Oui,
chemins possibles.
ouais. Mais à partir de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je ne le fais pas de façon frénétique pour masquer, je ne suis pas en hyperactivité. Voilà, j'ai pris conscience de ça et je me lance dans quelque chose qui correspond à ce que j'aime ou à ce que je sais faire, j'ai un élan vers quelque chose et je le fais. avec à mes côtés cette détresse un petit peu dont on parlait, quoi. Je ne la
Oui.
masque pas,
Oui.
je l'ai avec moi, et par contre, je fais quelque chose qui me fait du bien ou pour lequel j'ai une
Oui.
appétence. Et c'est pas du, c'est pas effectivement, je vais faire du sport 25 heures par semaine. On n'est pas dans une espèce de boulimie. Voilà, c'est conscient.
Tout à fait.
On a conscience de cette détresse et on l'emmène quelque part avec nous faire autre chose.
Tout à fait, parce
C'est
que
ça.
le deuil, c'est un processus de perte. On perd la personne aimée,
Oui.
et avec elle, on perd beaucoup d'autres choses aussi, hein. Donc c'est petit à petit peut-être accéder au fait que ce deuil, il fait perdre, mais il peut aussi faire gagner quelque chose, apporter quelque chose dans le parcours de vie, réorienter, ouvrir des horizons nouveaux, et du coup le vivre comme quelque chose qui nourrit, en fait, qui nous nourrit, qui est intégré au parcours de vie. Une expérience douloureuse, certes, mais qui peut nourrir, donc apporter des choses dont on fait quelque chose, auquel on donne un sens. Ça, c'est quand ça se résout petit à petit, quoi.
Oui, c'est ça, c'est petit à petit, parce que pour nos amis qui sont peut-être au début du processus, on ne peut pas aujourd'hui toujours dire que voilà, se lancer dans des choses, c'est pas. Il y a un temps pour tout, et il faut laisser venir d'abord ce que vous disiez tout à l'heure, un petit peu le tumulte avant de passer à autre chose. Donc, des gens qui nous écoutent, qui sont dans cette détresse depuis plusieurs mois, pour faire le premier pas et se faire accompagner, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour déclencher quelque chose?
Je pense que ce qui peut être aidant, c'est peut-être de simplement s'autoriser, c'est-à-dire s'autoriser à dire, bah, peut-être que de l'aide me serait bénéfique, et je vais aller voir. Je ne le sais pas à l'avance, on va voir. Mais
Ouais.
s'autoriser ça, sans enjeu, sans
Oui.
conformité, sans il faut que oh, je pleure trop souvent, il faut que ça s'arrête. Ou moi, j'ai des gens qui viennent me voir et dire, je voudrais gérer mes émotions,
Oui.
ça m'embête d'être comme ci, comme ça, par conformité. Donc c'est une injonction un petit peu qu'ils se donnent ou qu'on leur donne autour d'eux. Ça, je trouve que c'est plus compliqué parce qu'on se sent poussé dans le dos à faire quelque
Oui.
chose. Mais quand ça émane de la personne et qu'elle se dit, bon, ben, je pense que je pourrais faire mieux, je pourrais être mieux dans ma vie, et j'ai besoin d'aide pour ça.
Ouais.
Et ça, c'est un bon moteur. S'autoriser, sans enjeu. On ne sait pas si on
Sans
verra le psy
attente,
une
ouais.
fois ou 10 fois. Si on ne sait pas vers quel parcours, et moi-même, je ne le sais pas non plus. Quand je reçois quelqu'un la
Tout
première
à
fois, je ne
fait,
sais pas si je
ouais.
vais le voir une fois unique ou si c'est le début d'un long parcours. J'en sais rien, mais on se donne cette opportunité de d'y aller et on verra. Pousser la porte.
Merci. Il y a une question un peu plus peut-être philosophique, enfin pas philosophique, mais finalement, vous avez dit le deuil, la mort, ça fait partie aussi de la vie. Est-ce qu'on est taillé ou tous quand même pour franchir ces périodes, ou est-ce qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne pour franchir ces étapes?
Moi, je dirais qu'on est tous taillés pour, parce que la mort fait partie de la vie de tout le monde, et que un humain, il sait que les humains comme lui vont mourir, ceux qu'il connaît comme les inconnus, et que lui-même mourra. Donc, on est tous confrontés à ça, et je pense que ça nous donne à tous la possibilité de nous y confronter. Maintenant, les histoires de vie sont infiniment différentes, et pour certaines personnes, tout ce qui concerne la perte, la séparation, la tristesse, c'est des choses qui ont tellement eu de résonance et qui ont conditionné leur vie que ils n'ont pas les mêmes ressources. On y est pareillement confronté, je pense, mais on n'a
Ouais.
pas les mêmes ressources pour ça, selon le parcours de vie, les expériences de détresse, de fragilité, de souffrance que chacun a pu faire. Et c'est sûr, quelqu'un qui est entouré, qui a plutôt été bien nourri narcissiquement, etc., va avoir plus de ressources pour affronter ça et pour surmonter ce passage que quelqu'un qui a vécu beaucoup d'abandon, beaucoup de ruptures, qui est en perte de confiance, etc. Ça, c'est
Ouais.
sûr. Et qui est en plus isolé socialement, etc., etc., quoi.
Laisser un peu passer la vie en 30 secondes. Il y a une phrase qu'on peut entendre parfois en disant non mais le temps va faire son œuvre et avec le temps ça va aller mieux. Alors pour moi c'est vraiment une phrase qui peut vite révolter. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? T'inquiète, bon avec le temps ça va aller mieux.
Je pense qu'elle est légitime à dire parce que c'est quand on ne sait pas quoi dire, ça vient facilement.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, le temps est sans doute nécessaire, mais pas suffisant. Donc, quelqu'un qui s'étonnerait de mal dormir, d'avoir plein de pensées, de la tristesse, etc., dans les mois qui suivent un deuil, il faudrait pas s'étonner. Plus on est prêt, plus ce genre de manifestations surviennent. Donc, le temps, c'est vrai qu'il joue un rôle, mais c'est pas, il joue pas un rôle tout seul. C'est-à-dire que s'il ne se passe rien dans ce temps-là, ça peut enfermer les personnes dans un deuil qui devient après presque pathologique si elle s'enferme en comptant juste sur le calendrier, en disant bah, dans un an, ça ira mieux.
Oui.
Ça n'ira mieux que si pendant ce temps, il se passe quelque chose.
Là-dessus, moi, je trouve que justement, ce temps-là de la tristesse, de la détresse, il faut. Enfin, il faut. Moi, en tout cas, j'ai fabriqué, j'ai fait des choses avec des photos, souvenirs, des albums, enfin, des tas de choses où j'étais triste une grande partie de la journée et je replongeais. J'ai pas voulu. Enfin, j'ai voulu que ce temps, comme je dis dans l'intro, je dis que le temps suffirait pas simplement à éponger cette peine, qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, effectivement, cette tristesse, il faut la prendre, l'apprivoiser, enfin apprendre à vivre avec finalement. Et puis, au fur et à mesure, parfois les plus légères. Et puis, on peut convoquer des souvenirs plus joyeux de la personne. Enfin, voilà, tout ça évolue, mais il faut être au contact. Moi, je trouve, en tout cas, c'est mon expérience, être attentif aux signes, replonger. Dans les choses. À ce sujet, il y a les objets, hein. Après plusieurs années, j'ai encore des objets qui appartiennent à ma femme, en tout cas qui sont sensibles, que je n'ai pas touchés, mais je les vois. Enfin, je suis au contact, je suis toujours au contact, quoi. Et au fur et à mesure que le temps passe, ben, je trouve qu'il y a quelque chose d'autre qui vit en moi, puis il y a cet amour et puis ces souvenirs qui sont en moi de toute façon. Ça, on en a parlé dans d'autres épisodes, mais ce temps, il faut le mettre à profit. Faut pas le laisser filer comme ça, comme vous disiez,
Il
il faut
faut
qu'il
qu'il
se
se passe
passe des
des
choses.
choses. Oui, le temps à lui seul ne résout pas le deuil. Mais il est nécessaire pour que ces processus se mettent à l'œuvre.
Est-ce que le justement quand on vient vous voir et qu'on parle de cette perte de la personne, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui se passent justement, d'autres abandons qui remontent, enfin est-ce que le deuil finalement il fait pas ressortir des choses qui sont aussi plus enfouies quoi?
Alors probablement, hein, le deuil, c'est vraiment l'histoire d'une séparation, c'est de la perte, donc c'est des mécanismes qu'on éprouve très jeune, très tôt dans la vie, et tout au long de la vie, les histoires de séparation, de perte, c'est des expériences qui sont fondatrices de notre lien au monde, et ça peut raviver effectivement à l'occasion du deuil d'un proche, ça peut raviver des angoisses d'abandon, par exemple, ou qui ont été éprouvées antérieurement, et même des fois très jeunes.
Ouais.
Donc c'est là qu'il peut y avoir une fragilité dans le deuil et une difficulté dans le deuil, c'est que à l'occasion du deuil, qui est circonstancié, qui concerne une personne précise à un moment précis, les souffrances similaires sur la perte, l'abandon, sont ravivées, et alors là ça fait une caisse de résonance considérable. Donc oui, bien sûr, parce que c'est une expérience de perte, de séparation. Et la séparation, depuis la naissance, on ne fait que se séparer, hein. Donc
Eh oui.
c'est une expérience qui est assez fondatrice et qui peut
Oui.
être vécue dans la sécurité, l'épanouissement de la personne, mais qui peut être aussi vécue dans la menace existentielle, quoi. Donc,
Mais ça fait partie effectivement, c'est constitutif, comme vous disiez, de notre existence. Et au sujet de la mort, moi j'avais une question pour vous, parce que vous y êtes confronté, enfin avec toutes ces personnes que vous accompagnez. Pour vous, la mort, c'est quoi? Fin de la vie, un passage, une porte? Comment vous l'envisagez? On dévie un petit peu de notre registre, mais.
moi, je ne le lis pas, enfin, je ne le. Oui, au niveau de ma lecture de la mort, c'est pas d'en faire un cycle, je l'inscris pas dans un cycle, comme par exemple des bouddhistes avec une réincarnation, une
Oui.
transformation de la vie dans un
Ouais.
autre cycle qui se rejoue comme ça. J'ai pas du tout cette lecture-là, ni la lecture des religions, disons, chrétiennes. qui y voit le
paradis, de
passage
l'enfer,
vers
oui.
la résurrection
Oui.
avec une persistance de, je sais pas ce qu'on peut dire, peut-être là, mais ça, je suis pas là-dedans du tout. Pour moi, c'est un phénomène naturel
Ouais.
qui est spécifique du vivant, puisque tous les organismes vivants meurent. Et je le vois aujourd'hui, mais ça a pu évoluer au cours de mon parcours, hein, mais en tout cas aujourd'hui, comme vraiment quelque chose qui nous fait repasser à l'inorganique, quoi, enfin à l'inanimé, dans quelque chose de finalement très, pour moi, très matériel, quoi.
D'accord.
Alors c'est repris aussi dans des textes religieux, hein, on redevient poussière,
Oui,
etc.
on
Mais
retournera en poussière,
c'est le
oui.
côté, on redevient de la matière, une matière qui participe de toute cette présence de matière dans le monde, dans l'univers même carrément. Il y a des gens aujourd'hui qui prévoient des nouvelles formes de sépulture avec l'humusisation, là où
Oui,
on fait décomposer les corps pour que
ouais.
les corps nourrissent la terre. De... Bon, voilà, enfin, moi je vois plutôt ça comme ça. S'il y a un cycle, pour moi, c'est plus là-dedans. Et
D'accord.
puis j'ai vu dans d'autres cultures, dans des cultures en Inde ou au Népal, par exemple, l'accès à la mort est très différent et beaucoup plus public, et où s'il y a un cycle, indépendamment de l'aspect religieux, âme, réincarnation, etc., il y a cette... voilà, le mort, il est envoyé dans un espace commun, et brûlé sur des bûchers, on met les cendres dans le fleuve, et ça part dans un espace finalement naturel, partagé, et
Ouais.
tout ça, c'est un grand cycle. Bon,
Ouais,
comme les
d'accord.
feuilles qui se dessèchent et qui nourrissent la terre, et puis d'autres arbres poussent, et ainsi de suite, quoi. Je
D'accord.
suis un peu plus sur ce registre-là aujourd'hui, je dirais.
D'accord.
Mais ça n'engage que moi.
Oui, non, merci de
Merci.
ce partage. On va conclure notre épisode. Est-ce que vous auriez quelque chose pour nos auditeurs, leur donner un peu de ressort dans cette période? Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire ou leur redire?
Répondre à un psy pourquoi faire, c'est compliqué parce que je ne sais pas quand je reçois quelqu'un ce qu'on va faire ensemble, je ne le
Ouais.
sais pas. Manifestement, on fait quelque chose puisque après quelques mois, les choses ont bougé, c'est donc qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être je le dirais si c'est à destination de gens qui sont confrontés au deuil
Oui.
aujourd'hui, que peut-être le plus important pour moi, c'est s'autoriser à être quoi. Je ne sais pas ce qu'on va faire ensemble avec les gens que je reçois, mais au moins au début, le premier pas, c'est de s'autoriser à être comme on est, avec sa tristesse, avec son ambivalence, on l'a pas dit, mais il y a des gens qui sont infiniment tristes du décès de leurs proches, mais aussi infiniment soulagés, libérés et plus tranquilles. Et c'est difficile à supporter cette tranquillité qui vient avec au prix de la perte de l'autre.
Oui.
Bon, c'est en tout cas être, s'autoriser à être comme on est, à s'accepter comme ça, traversé par ce deuil, avec tout ce que ça va comporter et qu'on ne soupçonne pas forcément à l'avance et que moi-même je ne sais pas prévoir. Mais si le psy peut servir à quelque chose, c'est offrir un espace où ce que l'autre va être aujourd'hui et demain dans cette épreuve, à sa place et peut être accueilli, reconnu à sa juste valeur, quoi. Et pas étouffé pour des conventions sociales, il faut pas dire ça, on n'a pas le droit d'eux, etc. C'est laisser, je disais, laisser venir tout à l'heure, encore une fois.
Ok. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, c'est une belle conclusion. On va rester là-dessus. Et ben, je vous dis merci. Puis je ne sais pas si c'est à bientôt, mais en tout cas, merci de cette participation. Merci beaucoup.
Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et si vous voulez soutenir mon initiative, vous trouverez un lien dans la description ou bien sur la plateforme Ulule. Dans tous les cas, merci. Je veux vous encourager. La vie est là, profitez-en, vous pouvez traverser. Et surtout, cultivez l'amour, c'est le plus important. À bientôt!
Sommet des villes, plus de parfums que d'épines, puis tout.